Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, il est 6h, temps universel. Bon début de journée à l'écoute de la voix de l'Amérique. En direct du Studio 13 ce mardi, Nicolas Pinault et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une, la tension qui monte au Burkina Faso, 48 heures avant le vote de l'Assemblée sur la révision constitutionnelle.
Ban Ki-moon appelle à ne pas stigmatiser les personnels de santé qui luttent contre l'Ebola. En Guinée, les médecins cubains sont en première ligne pour lutter contre l'épidémie.
Vraiment, pour nous, c'est une grande satisfaction d'aider notre grand frère de la Guinée, qui va à la Guinée, pour faire que l'épidémie, ça, c'est une histoire.
Le Nigeria affirme que les négociations avec Boko Haram restent d'actualité malgré les violences.
Et les combats font rage de l'autre côté de la frontière avec l'armée camerounaise.
Boko Haram doit savoir que quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve en territoire camerounais, il va nous trouver et nous sommes déterminés à l'empêcher de réaliser ses funestes desseins.
Sans oublier les sports en fin d'émission, mais avant cela le journal, vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour à tous.
À Ouagadougou, J-2 avant le vote par l'Assemblée nationale du projet de révision constitutionnelle. Si l'article 37 est modifié, il permettrait à Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, de se maintenir. Hier, bravant l'interdiction municipale, plusieurs centaines de femmes brandissant des spatules ont marché de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies. Sarah Thierry-Rémy Séré, coordonnatrice des femmes de l'opposition et de la société civile.
Nous avons décidé de sortir pour marquer notre désapprouvation face aux dérives actuelles, vu la relecture programmée de l'article 37 de la Constitution, qui pour nous est un coup d'État constitutionnel et qui marque un tournant très grave pour la cité. La situation est très délétère et risque de devenir un chaos. Alors, en tant que maire, nous devons interpeller le président Blaise Compaoré pour qu'il puisse retirer ce projet de loi qui est vraiment démocratique. Nous interpellons les députés pour qu'ils écoutent la voix du peuple. Nous interpellons enfin les forces de sécurité pour que ce soit des forces de sécurité qui vont protéger le peuple et non retourner les armes que le peuple a achetées contre les enfants du peuple.
Sarah Thierry-Rémy Séré, jointe à Ouagadougou.
Les pourparlers entre le gouvernement nigérian et Boko Haram ne sont pas menacés par les récentes violences. C'est ce qu'indique Aminu Wali, ministre des Affaires étrangères, qui précise que les discussions se poursuivent au Tchad cette semaine pour obtenir la libération des lycéennes de Chibok. Le ministre nigérian a fait cette déclaration à la suite d'un entretien avec son homologue français Laurent Fabius, c'était à Abuja.
Le point à présent sur l'épidémie d'Ebola, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à ne pas stigmatiser les personnels de santé de retour d'Afrique de l'Ouest après des mesures controversées de quarantaine obligatoire aux États-Unis. Après la découverte d'un premier cas d'Ebola chez un médecin à New York, les États de New York et du New Jersey avaient instauré vendredi une mise en quarantaine obligatoire pour tous les voyageurs ayant eu des contacts avec des malades en Afrique de l'Ouest. Depuis, ces mesures ont été assouplies. Par ailleurs, les soldats américains déployés pour combattre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest seront désormais placés en quarantaine à leur retour. Eddie Isango.
Le colonel Stephen Warren, porte-parole du Pentagone, a fait savoir que par mesure de précaution, un premier contingent d'une douzaine de soldats, dont l'ancien chef de la mission américaine au Libéria, le général Daryl Williams, a été placé en quarantaine sur la base américaine de Vicenza, en Italie. Les soldats resteront sous surveillance médicale pour une durée de 21 jours, la période maximale d'incubation de la fièvre hémorragique Ebola. Quelques 600 soldats américains sont au Libéria et 100 au Sénégal. Ils ont construit des laboratoires mobiles et un hôpital de campagne pour les personnels sanitaires. Le Pentagone a précisé que le nombre de soldats américains en Afrique de l'Ouest pourrait monter jusqu'à 4000 si nécessaire pour aider à lutter contre l'épidémie.
Sachez aussi que le coordinateur de l'Union européenne contre Ebola a estimé qu'il fallait absolument plus de médecins occidentaux pour combattre l'épidémie. Les conséquences de l'épidémie sont franchement effrayantes, a jugé le nouveau commissaire européen aux affaires humanitaires, Christos Stylianides. Et puis, bonne nouvelle en revanche, en provenance de la République démocratique du Congo, l'épidémie reste contenue dans le territoire de Boende, dans la province de l'Équateur. Selon le ministre congolais de la Santé, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 4 octobre dernier. La fin de l'épidémie pourrait être déclarée prochainement, estime le docteur Félix Kabangé-Numbi.
Nous avons 67 cas, c'est-à-dire 38 cas positifs, 28 cas probables Et un cas suspect qui aujourd'hui va être prélevé pour son deuxième examen, parce que le premier examen était négatif, mais comme vous le savez, avant de le décharger, on doit faire un deuxième examen de contrôle 72 heures après. De manière cumulée, nous sommes à 49 décès, dont 21 confirmés et 28 probables, un taux de létalité autour de 73%. Si dans les 21 prochains jours, il n'y a pas de cas identifié, ça veut dire autour du 15 novembre, la RDC pourra ainsi proclamer la fin de l'épidémie.
Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabangé Numbi, au micro de notre partenaire à Kinshasa, Top Congo.
Dans le nord du Mali, deux hommes ont été abattus par des hommes en armes dans la commune de Bamba, dans le cercle de Bourem. Les populations de cette localité, située à 150 km du dernier poste militaire, sont inquiètes et demandent à être sécurisées. Le point avec notre correspondant, Babacar Touré.
Bamba, village situé à quelques 200 km de Gao vers le nord, est une commune du cercle de Bourem. Le village de Abakoira est à 35 km de Bamba à la frontière de Gourmararous dans la région de Tombouctou. C'est sur le chemin de retour après la foire de Bamba que Wario Hafizou, qui se prépare à être intronisé à la chefferie du village de Abakoira, et son cousin ont été froidement abattus par des hommes en armes qui circulaient librement. Sur les lieux du drame, nous avons contacté un témoin qui a souhaité garder l'anonymat.
Je suis actuellement arrêté sur les deux corps sans vie de deux hommes froidement abattus par des hommes en armes qui circulaient sur des motos. Il s'agit des corps de Wario Hafizou et son cousin Mama Hafizou. Nous sommes là, nous cherchons à transporter les corps dans leur village pour les enterrer. Nous sommes vraiment très inquiets, surtout qu'il n'y a pas de militaires dans la zone pour nous sécuriser.
Il faut le rappeler, dans le nord du Mali, seules les grandes villes sont sécurisées. Sur les routes reliant les villes et les villages, les bandits et les islamistes sont libres de tout mouvement. Gao Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
Le chiffre du jour, plus d'un Africain sur trois appartient désormais à la classe moyenne après une décennie de hausse de niveau de vie qui va perdurer avec la forte croissance économique. C'est ce que dévoile une étude de la Banque africaine de développement. 34% des Africains, soit environ 370 millions de personnes, appartiennent à cette classe moyenne selon les standards africains, avec des revenus compris entre 2,2 et 20 dollars par jour. Ce chiffre devrait atteindre 42% d'ici 2060, selon la BAD.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 6h07 temps universel. Dans le reste du monde, le président palestinien Mahmoud Abbas réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les violences accrues à Jérusalem-Est et sur les agressions israéliennes sur l'esplanade des mosquées. Une demande qui intervient alors que le gouvernement israélien a décidé d'accélérer le projet de construction de 1000 nouveaux logements à Jérusalem-Est sur des terres conquises et annexées en 1967. Pour les Palestiniens qui souhaitent établir leur future capitale sur ce territoire, c'est une action illégitime et inacceptable. Jean-Roger Bion.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré lundi que son pays a tous les droits d'étendre ses colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, bien que les États-Unis et la communauté internationale n'aient jamais reconnu l'annexion par Israël de Jérusalem-Est. Ce secteur abrite déjà un demi-million de Juifs vivant au milieu de 2,5 millions de Palestiniens. Monsieur Netanyahou affirme qu'un consensus existe au sein du public autour du droit d'Israël de construire dans les quartiers juifs de Jérusalem et dans l'espace occupé par les colonies. Il rappelle que tous ses prédécesseurs l'ont fait durant les 50 dernières années, mais cette position est rejetée d'un revers de la main par le premier ministre palestinien Rami Abdallah. Toutes les violations israéliennes, dit-il, toutes ces colonies, tout ce que fait l'occupation dans cette zone, tout cela est illégitime et le jugement de l'histoire confirme que toute occupation doit un jour prendre fin. Abdallah affirme que l'occupation israélienne des territoires palestiniens prendra fin et qu'il aura un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Un espoir que semblent infirmer les réalités du moment.
Le groupe État islamique a diffusé hier soir une vidéo montrant l'otage britannique John Cantley. Dans cet enregistrement, apparemment à Kobané, le journaliste de 43 ans apparaît dans une ville en ruine, parlant à la caméra et prétendant que les djihadistes n'ont pas battu en retraite. Cette vidéo vise à démontrer que le groupe est toujours actif dans cette ville syrienne disputée.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a décidé d'étendre le rôle de l'armée après une série d'attentats meurtriers visant les forces de sécurité. Il a promulgué hier un décret autorisant les tribunaux militaires à juger les civils accusés d'attaques terroristes contre les infrastructures de l'État. Jacques Aristide.
Le chef de l'État égyptien a ordonné aux soldats de prêter main forte aux forces de l'ordre pour protéger les infrastructures du pays, notamment les centrales et les pylônes électriques, le réseau routier et les ponts, pour une durée de 2 ans. Par le truchement de ce décret présidentiel, Fatah el-Sissi a également élargi la juridiction des tribunaux militaires, désormais autorisés à juger toute personne accusée d'attaque contre les installations publiques. L'annonce survient quelques jours après l'attaque la plus meurtrière contre les forces de sécurité égyptiennes depuis que l'ex-chef de l'armée et actuel président a évincé Mohamed Morsi en juillet 2013. Vendredi, un kamikaze a lancé sa voiture bourrée d'explosifs sur un barrage militaire dans le nord de la péninsule du Sinaï, tuant 30 soldats. Au lendemain de l'attaque, M. Sissi avait promis une réplique forte à la menace que représentent les djihadistes pour l'Égypte.
C'est tout pour ce journal. De retour avec vous, Nicolas Pineau, pour Le Monde aujourd'hui. Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Un membre de l'équipe médicale envoyée par Cuba en Guinée pour lutter contre le virus est mort dimanche du paludisme. Ce groupe de médecins cubains est arrivé à Conakry pour aider à la lutte contre le virus, comme nous l'explique Michel Joseph.
Ce premier contingent de médecins cubains est composé essentiellement d'épidémiologistes qui vont mettre en place des laboratoires d'analyse dans les zones les plus touchées en Guinée. Leur arrivée coïncide avec une nouvelle résurgence de la maladie dans le pays, où l'on signale plus de 1500 cas d'Ebola, dont plus de 800 morts. Pour François Lansini-Fall, ministre guinéen des Affaires étrangères, la présence de cette équipe cubaine va renforcer la confiance dans la bataille contre l'Ebola.
Nous savons que Cuba a toujours été à nos côtés. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de nos frères cubains. La Guinée est confrontée aujourd'hui à de grandes difficultés sanitaires. Mais connaissant votre professionnalisme et votre engagement, et surtout les liens historiques qui existent entre nos pays, vous basant sur les instructions du commandant Fidel Castro, le leader historique de votre pays.
La fièvre Ebola est apparue en Guinée forestière et touche maintenant Conakry et d'autres villes guinéennes. Ce pays n'était pas préparé et manque de personnel qualifié pour aider à faire face au virus. Le président Alpha Condé a même dû forcer les médecins à la retraite à reprendre du service et des étudiants en médecine à se porter volontaires ou subir des conséquences. Beaucoup de soignants ont péri en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Le chef de la délégation cubaine, le docteur Graceciliano Jazz Batolo, dit que la priorité de son équipe sera d'arrêter la chaîne de contamination et de dénombrer correctement les cas.
Tous les Québécois sont là et ils sont venus pour travailler, pour faire sortir l'épidémie rapidement de la Guinée parce que ça va éviter que ça s'expande pour tout le monde. Vraiment, pour nous, c'est une grande satisfaction de aider à notre grand frère la Guinée, Cuba la Guinée, pour faire que l'épidémie, ça c'est une histoire à partir du mois prochain.
La tâche ne sera pas facile, d'autant que la semaine dernière, un malade de Cancan a fui l'ambulance qui le transportait vers un centre de traitement pour mourir à Guéquédou. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, beaucoup de Guinéens ont toujours beaucoup de préjugés concernant les efforts déployés contre l'Ebola. Samantha Power, la représentante américaine aux Nations Unies, est passée dimanche à Conakry dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. Après sa rencontre avec le président Condé, elle a déclaré que l'Ebola n'est pas seulement un problème africain, mais un problème global qui nécessite une plus grande action internationale.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bras de fer de tous les dangers au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré défiera-t-il ses opposants en briguant un nouveau mandat? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h PU sur la VOA.
On parle à présent évidemment de la réunion hier à Bruxelles des agences caritatives et des pays donateurs au chevet de la République centrafricaine. À l'ordre du jour, cette crise humanitaire qui continue d'embraser le pays. Le point avec Félix Yepa Sizembo.
Parmi les participants à la rencontre d'hier, l'ambassadeur Stuart Samington, représentant spécial du département d'État pour la RCA. L'objet était de focaliser l'attention de tous les pays membres et des organisations sur le problème régional et le défi que constitue cette situation en République centrafricaine, a-t-il dit. Qu'est-ce qui est en jeu au centre de l'Afrique? Quel en est l'intérêt, non seulement parce que la vie de chaque ressortissant de la République centrafricaine importe, mais aussi parce que cet endroit recèle un potentiel non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde, si nous nous y prenons bien, a expliqué le représentant spécial du département d'État pour la RCA. L'ambassadeur Samington a félicité les pays ayant promptement répondu à la crise centrafricaine, y compris les pays voisins, la France et les États-Unis. Il a évoqué les défis qui attendent d'être relevés en RCA. Premièrement, s'assurer que les leaders de la République centrafricaine se concentrent sur le chemin vers l'avant en pensant aux intérêts de la nation tout entière et non ceux d'une portion. Deuxièmement, il faut que les gens considèrent ce gouvernement de transition comme un pont vers l'avenir. Selon la coordinatrice régionale adjointe du HCR pour la RCA, Lisa Awa, la violence a fait 400 000 réfugiés et 400 000 personnes déplacées, soit 20 % de la population. Les écoles ne fonctionnent pas, les centres de santé marchent à un niveau très, très sommaire et certains, pas du tout. En somme, les structures sont inexistantes dans presque tous les secteurs. L'accès à la nourriture est problématique, a expliqué Mme Awa. Rien que cette année, quelque 260 millions de dollars sont nécessaires pour faire face aux besoins, mais une fraction seulement a été obtenue, a-t-elle précisé. Les nombreux Centrafricains réfugiés au Cameroun pèsent lourdement sur les ressources de ce pays, a relevé pour sa part Margaret McKelvey, directrice du Bureau Afrique du département d'État pour la population, les réfugiés et la migration.
The government in Cameroon is...
Le gouvernement du Cameroun commence à dire que les gens doivent demeurer dans les camps pour des raisons de sécurité et qu'il faut les regrouper afin de faciliter l'assistance, a déclaré Mme McKevey, notant que le Cameroun fait par ailleurs face à un afflux de réfugiés nigérians à cause de Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Nous restons en Afrique centrale, dans le nord du Cameroun. Les combats entre l'armée et des membres présumés de Boko Haram se poursuivent depuis un mois. Au moins 250 personnes ont été tuées lors de ces affrontements. Lionel Gaïma.
À cause de combats depuis un mois, les habitants fuient en masse plusieurs localités de cette région camerounaise. Amidou Jafarou, un habitant de Ding Ding, affirme que les assaillants avaient déjà tué au moins 22 personnes avant l'arrivée des soldats camerounais. Le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée, dit qu'au moins 250 personnes ont été tuées, dont 9 soldats et plusieurs civils le long de 500 km de la frontière avec l'État de Borno au Nigeria.
Cette secte est en possession d'un véritable arsenal de guerre et ne planifie pas ses incursions dans le but de créer seulement des attritions.
D'après le porte-parole de l'armée camerounaise, Boko Haram mène des attaques régulières pour tenter d'élargir ses territoires avec des villages frontaliers. Selon lui, la semaine dernière, les islamistes ont même tiré des roquettes pendant la visite du général René-Claude Meka, chef de l'armée, venu encourager ses troupes.
Je veux vous dire qu'à cet endroit, il ne se passe pas d'heure sans que cette zone ne soit alimentée en feu nourri. Et au moment où nous nous trouvions, il y a une rafale qui est venue du côté d'en face. Et rafale à laquelle nous avons répondu énergiquement jusqu'à épuisement de toute riposte. Et le chef d'état-major des armées n'était pas venu pour commander des tirs à cet endroit. Et à partir de ce moment, il a été prié par le commandant de la zone de dégager cette zone des opérations comme il aurait été demandé à n'importe quelle autorité dans n'importe quel pays qui maîtrise les règles élémentaires du combat et de la tactique.
Il y a quelques mois, les islamistes avaient même planté leur drapeau à Ashigashia avant d'en être chassés après quelques semaines d'occupation. Le général Jean-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée, se veut inflexible.
Boko Haram doit savoir que quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve en territoire camerounais, il va nous trouver et nous sommes déterminés à l'empêcher de réaliser ses funestes desseins. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour que Boko Haram ne trouve refuge nulle part sur le territoire camerounais.
Le ministre Issa Tchiroma, porte-parole du gouvernement, rejette toute idée de présence durable des islamistes dans le nord du Cameroun. L'allusion est faite sur la présence d'une rébellion armée sous couvert de Boko Haram au Cameroun. Ce sont des allégations non fondées. Chacun sait qui est Boko Haram et quelles sont leurs motivations depuis leur base au Nigeria. Boko Haram, dans sa sanglante insurrection, n'a jamais caché sa volonté d'instaurer un califat dans la région. Il y a 10 jours, le gouvernement d'Abuja a annoncé un cessez-le-feu avec le groupe Mais les combats ont continué à la fois au Cameroun et au Nigeria.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Il est 6h20, temps universel. Parlons du désarmement en Côte d'Ivoire. Près de 26 000 armes ont été collectées en 2 ans dans le pays. Tel est le bilan dressé par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. Un processus mis en place après la crise post-électorale de 2010-2011. Un séminaire aura lieu dans les jours à venir à Abidjan sur la question, en prélude à cette rencontre qui verra la participation de plusieurs pays qui ont connu la guerre. Les responsables de l'ADDR ont tenu un point de presse, compte rendu à Abidjan de Germandry.
24 mois après sa mise en place, les responsables de l'ADDR et leurs partenaires ont estimé qu'il est opportun de tirer les leçons de l'expérience ivoirienne, faire le bilan et se projeter dans le futur. Selon Fidel Sarasoro, directeur de l'ADDR, le bilan évolue chaque jour.
C'est un effectif de planification. La base de données est dynamique et elle se met à jour pratiquement tous les jours. À la date d'aujourd'hui, nous avons collecté environ 26 000 armements, c'est-à-dire des fusils, des calages, des obus, des grenades, etc. Plus près de 650 000 munitions. En ce qui concerne toujours le bilan, nous estimons que nous avons mis dans le processus de réinsertion et réintégration près de 60% des ex-combattants à la date d'aujourd'hui. Sur un effectif de 14 000 ex-combattants, le DDR est un processus fondamentalement politique parce que c'est le résultat d'une crise. Et en général, la crise est sécuritaire. Or, en matière de sécurité, rien n'est linéaire. Il y a des hauts et des bas, il y a des avancées, il y a des reculs. Et le DDR est fondamentalement socio-économique. Il dépend du contexte économique.
Pour Babacar Cissé, représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur résident du système des Nations Unies, ce séminaire va donner l'occasion aux uns et aux autres d'échanger.
Il s'agit donc d'écouter des représentants venant de divers pays qui vont également nous présenter leur programme, notamment donc en Centrafrique, au Mali et en RDC. Nous aurons des experts de haut niveau qui vont donc jeter un regard critique sur ce qui a été fait et qui vont nous faire des recommandations par rapport aux perspectives. Je pense qu'il était important, après 2 ans d'activité, qu'on puisse tirer des leçons de l'expérience de l'ADDR, voir tout ce qui a été fait dans ce pays donc en matière de désarmement, d'utilisation et réintégration. J'aime toujours à rappeler que ce sont des processus qui sont très complexes, contrairement à ce que l'on pense. Nous avons eu obtenu des expériences dans différents pays, notamment donc au Libéria, en Sierra Leone, en RDC, en Angola, au Mozambique et j'en passe. C'est vous dire qu'on a accumulé donc une expérience assez importante dans ce domaine que nous aurons l'occasion de partager un peu lors du séminaire.
Le séminaire est programmé pour les 4, 5 et 6 novembre prochains. Jean Mendry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nico.
Allez Timothée, c'est du déjà vu en football. On reparle de la fédération nigériane qui est menacée d'une nouvelle suspension par la FIFA qui l'exclurait définitivement de la course à la CAN 2015.
Cette nouvelle crise du football nigérian est provoquée par une décision de la haute cour de Jos dans l'état du Plateau ayant annulé jeudi l'élection le 30 septembre dernier d'Amadou Pinnick à la tête de la Fédération nigériane de football. Déjà suspendu à 2 reprises, le Nigeria avait été averti par la FIFA qu'une nouvelle ingérence dans les affaires du football national entraînerait une suspension du pays jusqu'à au moins mai 2015. Le président de la CAF, Issa Hayatou, a rencontré le ministre nigérian des Sports, Tami Danagogo, en marge de la finale de la CAN Dam à Windhoek et lui a signifié qu'à moins d'une annulation de la décision judiciaire de Jos, la FIFA pourrait sévir dès lundi.
Parlons à présent de la sélection argentine et le rappel hier en sélection nationale de Carlos Tevez.
Cela faisait 3 ans que l'attaquant de la Juventus de Turin n'avait plus été sollicité par sa sélection nationale. Le sélectionneur Gerardo Martino a fait appel à lui et reconduit en partie l'équipe finaliste du dernier mondial pour jouer contre la Croatie le 12 novembre à Londres et le Portugal le 18 à Manchester.
Coup dur à présent pour Zinedine Zidane, suspendu de son poste d'entraîneur de l'équipe réserve du Real de Madrid.
La Fédération espagnole de football lui reproche de n'avoir pas validé son diplôme d'entraîneur. Son club n'est pas de cet avis. Le Real dit qu'il entend protester contre cette décision par toutes les voies légales. Apparemment, c'est une plainte du directeur d'une école espagnole d'entraîneurs qui a tout déclenché. Ce dernier accuse Zidane de ne pas disposer du diplôme de niveau 3 requis pour entraîner en D3 espagnol. Selon un quotidien local, l'ancien bleu dispose pour le moment de l'équivalent du niveau 2.
Et puis Timothée, c'est la fin de la longue attente pour les fans de basketball dans le monde entier. La nouvelle saison de NBA, le championnat de basket nord-américain, débute ce soir.
3 matchs au programme ce soir, Orlando, Nouvelle-Orléans, Houston Lakers de Los Angeles et Dallas San Antonio. San Antonio qui tentera de conserver son titre. Quelles sont ses chances? La réponse d'Eugène Pewa Pelema, président de l'ONG Africa Education Sports à Gettysburg dans le Maryland.
La réalité est que cette année sera une très difficile saison pour San Antonio, déjà dans la conférence Ouest où il y a de nombreuses équipes qui vont être des très grands compétiteurs, que ce soit Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City, Memphis. En tout cas, la compétition dans cette conférence sera énorme. Et bien sûr, côté Est, Cleveland rénové, Chicago. Je pense que cette année ne sera pas facile pour San Antonio de faire un doublé.
Eugène Pewa Pelema, président d'Africa Education Sports, Gettysburg dans le Maryland.
Place à présent à la musique, comme tous les matins dans notre émission, nous accueillons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. Une mauvaise nouvelle pour les fans de la musique africaine. L'artiste Johnny Lafleur est décédé dans une clinique d'Abidjan ce samedi. On se souviendra de lui dans Abidjan Caillou.
Alors Roger, le chanteur de Ziggy Biti était malade depuis plus d'un an suite à un problème médical.
Oui, et par conséquent, il était paralysé et s'était retiré à Divo, une ville de la Côte d'Ivoire, pour des soins. Niouli, le successeur d'Ernesto Djedje, quitte la terre en laissant les Ziggy Biti, un genre musical de Côte d'Ivoire s'inspirant des sonorités traditionnelles de peuples de l'ouest de la Côte d'Ivoire, Bété, Gouro et Dida, qu'il voulait voir perdurer et prospérer. Nico, avec la mort des Johnny, sonne la mort du Ziggy Biti. Ses fans ont écrit sur les réseaux sociaux ce week-end « Adieu Johnny Lafleur, que la terre te soit légère ».
Voilà Johnny Lafleur, Abidjan Caillou. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Nico. Bonne journée à vous et à tous les fans de Johnny Lafleur.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs 20h temps universel pour le RM Show. Ainsi s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous allons saluer Maïnion d'Almeida qui nous écoute à Cotonou, mais également Simplice Yochi à Johannesburg. Comme retrouvez-nous sur notre page Facebook La Voix de l'Amérique. Anne Albertson et Nicolas Pino vous ont accompagné ce matin. Excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.